Boulevard.
Les midis, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Toujours pas trouvé notre Gilto, 418-971-1021. S'il y en a.
Pascal, je sais pas si je ris ou si je suis découragée.
Pascal Morgan, c'est comme une bulle au cerveau qui est apparue juste avant de rentrer. Tu comprends, c'est pas prévu.
Bien entendu, on cherche encore Gilto, là. Pour
alors, si vous connaissez Gilto, on aimerait savoir s'il est à l'écoute. 418-971-1021. Non, sans blague, c'est le numéro pour réagir et vous allez réagir, je suis certain, dans cette émission parce que l'actualité a explosé en ce début de vendredi. Donald Trump qui dit au Canada qu'il doit d'honneur à cause de la pub de Doug Ford. La loi spéciale, on est en train de chicaner à l'Assemblée nationale. Bref, il y en a des choses à couvrir. Puis il y a notre fameuse campagne municipale également qui continue. D'ailleurs, Mathias Turcotte va être avec nous tout à l'heure aux alentours de 12h45. Mathias est allé à deux conférences ce matin. Bruno Marchand et celle des médecins omnipraticiens du Québec. Donc, il va nous revenir avec plein d'informations intéressantes. On le répète, c'est l'émission Nageuse. Vous l'avez entendu, Pascal CV. Comment ça va, Pascal?
Ça va très bien. Vendredi, bien heureuse de ça. Fait beau. Il n'y a plus, toute la semaine. Je pense que le week-end sera ensoleillé.
Ah, clair.
Puis on a besoin d'une petite pause. Là, c'est rare que je dise ça, mais d'une petite pause pour bien assimiler tout ce qui se passe autour de nous.
Ouf,
en termes de faits divers, ça prend un peu le corridor sombre des nouvelles oubliées ces temps-ci parce que la politique, elle est chaude. Je ne dis pas qu'elle est bonne, je dis qu'elle est chaude.
Ouais, elle est omniprésente.
Mais tellement de faits divers. Je ne sais pas si vous avez deux minutes aujourd'hui, on vous en reparlera, mais sont à donner froid dans le dos.
Oui, tu veux nous faire une petite chronique? Les nouvelles qu'on a laissées passer cette semaine, mais là qu'on va remettre à l'avant-plan, j'aime ça.
Oui, puis tu sais, il n'y aura pas juste du à donner des frissons dans le dos.
Non.
Il y a aussi qu'est-ce qui se passe au musée du Louvre.
Ah, on va revenir là-dessus. Ce fameux vol. Jeff Gosselin, ex-conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, sera avec nous aussi. Il a fait une lettre ouverte hier dans les médias en disant « Faut donner une majorité à Bruno Marchand. » Donc, on va essayer de comprendre ceci avec lui. Et on aura aussi Irénée Rutema qui va venir nous faire, comme à son habitude le vendredi, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en politique municipale, notamment la campagne municipale. Farnel Morisset est installé avec nous en studio. Farnel, comment ça va?
Ah, moi, ça va bien. J'ai pas l'impression que c'est le cas pour tout le monde à l'Assemblée nationale présentement ou ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui brassent. Mais moi, ça va super bien. Puis je suis reconnaissant pour ça.
Exactement. Merci, Nadine, de nous écrire. Allô, Jeff et Pascal. J'en peux plus de Donald Trump. Il ne respecte rien ni personne. Pouf, t'as bien raison, Nadine. Avant qu'on parle de cette loi spéciale qui soulève l'ire des médecins, Pascal, qu'est-ce qu'on a aussi à surveiller là, en ce début de vendredi? Parce que ça bouge sans bon sens dans l'actualité.
J'ai fait une pochette économie. Je vais y aller en rafale. Préparez-vous. D'abord, on a une invasion des produits laitiers américains au Canada. On en reparlera, mais ça, c'est une nouvelle. Il y a Air Canada aussi qui a supprimé des centaines de postes. On parle de licenciement collectif. On parle aussi, bien sûr, de tout ce qui se passe autour du fameux Denis Coderre avec ses problèmes.
Oui, problème au fisc encore
ça perdure,
pour Denis.
Ça perdure. Alors, il y a ça. Et bon, là où je mets un petit peu plus de temps, c'est effectivement les négociations avec Trump et Mark Carney. Donc, tout le monde s'en mêle. François Legault aussi s'est dit inquiet, qui ne l'est pas là, pour la situation économique du pays. Mais lui est sorti. Est-ce que c'était pour faire du capital politique? Ça, tout le monde a son mot à dire. Mais on presse du côté de François Legault, donc du provincial, le premier ministre Carney, d'investir en défense. Hein. On veut mieux compenser les pertes d'emplois provoquées par les tarifs américains. Je vois qu'il y a une petite nouvelle qui nous semi-concerne aussi. Ashton, qui réussit à faire sa place au niveau économique partout au Québec. Notre denrée respectable de Québec va s'investir et s'implanter un peu partout maintenant dans la province.
Vive la poutine!
Mais il y a aussi une grande campagne avec Ivan Demidov qui va commencer.
Oui, le joueur du Canadien, la recrue russe par excellence!
Ça va venir à vos yeux, à vos oreilles, mais on a décidé de mousser les débuts dans la grande région de Montréal avec une campagne publicitaire et on a choisi la jeune vedette du Canadien, Ivan Demidov. Hein? 24e restaurant Ashton, initialement basé ici, qui s'en va du côté de Mirabel le 7 octobre dernier. Alors, voilà que l'annonce avait été faite. Si je vous parle, sinon, de d'autres petites nouvelles qui nous concernent, ben, petite étant non, mais on s'en va vers la finalité de tout ça. Viendra l'artillerie lourde quand même dans le tout, mais là, si je vous parle de tout ce qui est commission Galant, vous savez, ça tire à sa fin. Il y aura des constats à faire de ça, de la commission Galant. Mais c'est ce qui nous attire depuis plusieurs semaines déjà, mais à Québec accorde une nouvelle prolongation pour le dépôt du rapport. Mm-hmm. Chose certaine, ça va prendre des semaines, mais là, on est vraiment en train d'amasser l'information finale puis d'en faire un genre de résumé pour le rapport de la commission Galant. C'est sur le fiasco.
Ouais, on vise février au lieu de décembre.
Ouais, finalement. faire déposer en février.
Exactement. Oui. Fernand, ça ne doit pas te surprendre, ça, parce qu'il y a eu du stock pas à peu près à la commission Galland.
Ben, je suis content qu'ils prennent le temps ils se donnent le temps de faire un rapport. J'espère que ça va être un rapport qui va être digne du temps additionnel qu'on donne, mais moi, je le vois d'un bon oeil.
Oui, exactement. Et Pascal, loi spéciale, qu'est-ce qui se passe? On sort la matraque, je pensais.
Ah, c'est une énorme journée. Là. La loi spéciale, c'est des pénalités si les médecins travaillent moins. C'est ce qui ressort dans les médias. Donc, ça a été déposé aujourd'hui. On veut modifier la rémunération des médecins. On prévoit des pénalités s'ils réduisent leur pratique de façon concertée. On tente de prévenir les contre-coups dans cette réforme-là. Donc, ça sera adopté sous bâillon. Peu de façons de détourner ce que le gouvernement tente de mettre en place de cette manière-là. Probablement au cours de la nuit, donc de vendredi à samedi, cette nuit-là, ça va se jouer. Pénalités qui seront imposées si les médecins réduisent leurs heures de travail. Et chose certaine, c'est un projet de loi qu'on dit risqué, dangereux. C'est dénoncé par les médecins de famille aussi. Tout le monde a son mot à dire. Chaque profession de la médecine lève la main, puis le gouvernement continue d'aller de l'avant.
Exactement. Comme j'ai dit, Mathias Turcotte va venir aux alentours de 12h45 nous présenter le point de vue des médecins omnipraticiens. On a eu en ondes dans le Point de Max Marc Rangé, un spécialiste en relations syndicales que vous entendez régulièrement sur les ondes de Boulevard 102.1. Farnel, si tu permets, je te fais écouter ce que Marc avait à dire et par la suite, on en jase.
C'est vraiment matraque, là. À la première lecture, ça va très, très loin. Parce que c'est des interdictions avec des pénalités, mais les interdictions, là, je regardais entre autres un des articles, là, parce qu'à un des articles 131, on fait l'énumération des interdictions, mais après ça, il y a le rôle, on crée un rôle d'un inspecteur spécial qui, lui, là, je l'ai ici, ça c'est à l'article 169, puis je serai pas technique après ça, là, mais le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur afin de vérifier l'application des dispositions du présent chapitre avec toutes les interdictions. Là. L'inspecteur peut pénétrer à toute heure raisonnable dans tout endroit où un médecin exerce ses fonctions ou activités, exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux fonctions, aux activités exercées par les médecins ainsi que pour examen ou reproduction, communication de tout document serait important. Puis là, ça continue. Fait que bref, non seulement on vient les contraindre, mais en plus, on les met... Ma première réaction, là, c'est sous quasi-tutelle.
Farnel, le gouvernement, il va vraiment très, 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 très fort. Je te dirais même, de mon humble avis d'animateur radio, trop fort là, avec les médecins, avec cette loi spéciale-là.
Oui, quelque chose qui est important à comprendre, c'est que c'est pas toutes les lois spéciales qui forcent les gens à retourner au travail qui sont les mêmes. Ils sont toutes faites sur Terre un peu de façon différente. Essentiellement, l'approche générale, c'est de dire... vous avez plus le droit, là, on dit ça aux travailleurs, vous avez plus le droit de vous coordonner pour faire des moyens de pression. Vous avez plus le droit de vous coordonner, par exemple, pour faire la grève, ce genre de choses-là. Parce qu'on peut pas forcer quelqu'un à travailler. Je veux dire, ça, c'est de l'esclavage. On n'est quand même pas rendu là. Mais ce que ce projet de loi s'y fait, OK? Alors, on parle de celui-là, là. Quand on dit qu'il va très loin, c'est que lui, entre autres, je veux dire, j'ai pris à peu près une heure pour le lire ce matin, là, c'est 150 quelques pages, là, je ne l'ai pas lu au complet, alors regardez ça en tête, mais ça veut quand même dire, je l'ai probablement plus lu que les députés de la CAQ qui vont le voter ce soir, OK? Une des choses qui se trouve là-dedans, c'est que si les médecins réduisent leur taux de travail, c'est-à-dire s'ils font juste travailler moins, et ça va être présumé que c'est de concert. Alors, on peut s'imaginer, là, demain matin, il y a fort probablement bien des médecins qui, après avoir mangé la claque d'aujourd'hui, vont pas vouloir travailler autant. Vont peut-être prendre, écoute, j'ai besoin d'un petit break, là, je suis tanné, tu sais. Et le simple fait qu'il y en a beaucoup qui le font tous en même temps, ça va automatiquement être présumé être de la concertation pour ralentir le travail.
Et ça va être assez pour avoir une sanction?
Ça serait assez pour être une sanction. Donc, ça serait à eux de prouver qu'ils ne se sont pas concerté. On renverse le fardeau de preuve. T'es coupable jusqu'à ce que tu prouves ton innocence en tant que médecin, que tu t'es pas concerté. Puis je dis, c'est ça.
On envoie les conversations Messenger.
T'sais, prouve que t'as pas concerté avec quelqu'un. Genre, prouve que t'as pas eu une conversation avec quelqu'un d'autre pour dire, ouais, finalement, peut-être que demain, on rentre pas travailler ou on travaille pas aussi fort. C'est extrêmement draconien comme projet de loi. Et je peux certainement comprendre qu'il y a bien des médecins qui vont le recevoir comme une claque sur la face.
Mais Farnel, ça va contre les droits fondamentaux qui existent. Là. Puis là, on s'entend, là, je suis pas le plus grand des syndicalistes. Là. On l'a vu dans le débat en passant la semaine dernière entre toi et Lambert. Mais tu n'as pas le droit d'empêcher les gens de manifester. Tu n'as pas le droit d'empêcher les gens de se concerter pour avoir justement des meilleures conditions de travail ou pour avoir... gain dans une négociation qui allait nulle part.
Ben, c'est contraire au principe des droits fondamentaux, oui, mais au Canada, les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Il y a eu des lois spéciales dans le passé. Les tribunaux généralement reconnaissent au gouvernement le droit d'empêcher la concertation pour ralentir ou empêcher le travail. Mais ce qui est vraiment intense ici, c'est que si le travail fait simplement ralentir par lui-même, parce que les gens sont découragés, on présume qu'il y a concertation et on va forcer les médecins à prouver qu'ils ne se sont pas concertés. Ça, c'est... Ça, je veux dire, il va y avoir une contestation.
C'est inverser le fardeau
de la preuve. On inverse le fardeau de la preuve. Il va y avoir une contestation, c'est clair. On va voir ce que les tribunaux vont en dire. Mais y aller de main aussi forte que ça pour un projet de loi qui a été déposé à genre 9 heures ce matin puis qui va être voté en fin de journée aujourd'hui par un gouvernement majoritaire qui n'a plus l'appui du peuple, il y a quelque chose là, qui se passe qui n'est pas correct.
Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort.
Moi non plus.
Tu sais, je me dis, on va faire une loi spéciale pour justement faire en sorte que les médecins demeurent au travail, ouais, qu'on recommence l'enseignement, parce c'est que ça. C'était une des priorités pour pas amener qu'on se retrouve avec un trou de
exact.
Service.
C'est une loi spéciale standard qui dit pas le droit de vous concerter, mais genre, on va pas présumer que si vous êtes juste fatigué, vous restez chez vous parce que vous êtes tanné, vous êtes en train de violer la loi. Là.
J'ai un malaise aussi, peut-être, puis du moins une réflexion par rapport au courant de société. Quand tu veux amener les gens à travailler de concert pour améliorer les choses, quand tu veux changer les choses, souvent d'y aller avec des sanctions, c'est pas la manière où tu vas arriver à tes fins, par exemple. Puis, tu sais, on voyait un Christian Dubé essayer de réformer la santé, puis on disait hey, bonne chance, il y en a tellement qui ont essayé, puis on sait qu'il y en a qui sont plus privilégiés que d'autres, mais il faut faire avancer les choses. Puis, j'ai l'impression que ça divise encore plus les corps de métier, puis ça divise encore plus le privé et le public, et même les citoyens envers ce métier-là qui est souvent vu comme hiérarchiquement très, très haut. Fait que là, il y en a qui le regardent, puis en disant ben vous autres, on le sait bien, les médecins. Quand il y a certains des points qu'ils avancent qui sont à considérer aussi, de se dire ben nous autres, on est en train de nous demander en fait d'être rémunérés selon la performance du groupe. Fait qu'on veut pas que vous, collectivement, vous manifestiez votre désaccord. Par contre, collectivement, vous allez être rémunérés selon la performance de
c'est
tous et
bon
chacun.
Ouais.
Y a des choses
on a juste le droit
ironiques.
De se concerter en direction que le gouvernement le veut puis pas en direction que le gouvernement veut pas.
Ben ça, il me semble que ça a rien pour ramener un groupe ou un corps de métier, vous dites ce que vous voulez, un ordre, à tenter d'améliorer les choses, là.
Ouais, je veux dire, ça fait longtemps qu'on sait que ce problème-là s'en vient, là. Ça, c'est une crise qu'on a vu venir pendant longtemps, puis le gouvernement a dormi sa switch, probablement en se disant que la crise va être politiquement payante, ça va leur permettre de sortir la matraque, justement. Alors, c'est un peu ça qui se passe, puis ça va être, au lieu d'avoir une opportunité pour ramener tout le monde ensemble autour de la table, puis se dire, OK, on va se parler, le gouvernement prendre les grandes mesures, puis ouais, je pense que ça va créer encore plus d'animosité, encore plus de division, puis...
Qu'est-ce qui sort de bon? Parce que je me dis, s'ils font ça, si le gouvernement souhaite faire ça pour eux, il doit avoir quelque chose qui va sortir de bon.
On pense que la guerre aux syndicats va être payante parce que moi, François Legault n'utilise même pas le mot fédération, il utilise le mot syndicat lorsqu'il parle
oui.
des médecins.
Moi, je lance la balle, ta question est excellente. Moi, je lance la balle aux députés de la CAQ. Aux députés de la CAQ, les simples députés, les backbenchers, qui ont quand même prêté serment sous leur honneur, qui allaient superviser le travail du gouvernement. Ils ne travaillent pas pour François Legault, ils travaillent pour les gens qui les ont élus. Est-ce qu'ils ont lu la loi? Il y a 113 pages de modifications aux lois dans un système qui est déjà extrêmement compliqué. Venez pas me dire que depuis 9 heures du matin, ils l'ont lu puis ils l'ont compris.
Non, puis venez pas me dire non plus que c'était des négociations qui étaient ouvertes et de bonne foi si tu avais préparé déjà le 113 pages. Là.
Ouais, s'il y a des députés de la CAQ qui nous écoutent maintenant ou plus tard, ce que j'aimerais leur dire, c'est leur rappeler qu'ils travaillent pour les gens qui les ont élus, ils ont prêté serment. C'est dans la loi que c'est illégal de faire des pressions indues pour changer la façon qu'ils votent. Ils ont le droit de voter contre un projet de loi qui est proposé par le gouvernement. Et en termes démocratiques, c'est leur devoir de le faire s'ils ne sont pas convaincus que c'est une bonne loi. S'ils ne savent pas c'est quoi qu'il y a dans la loi, j'ai de la misère à croire qu'ils sont convaincus que c'est une bonne loi. On verra qu'est-ce que ça va valoir ce soir, leur serment et leur honneur.
Oui, parce que cette loi-là va impacter les gens que Marc Tanguay a parlé tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
L'opposition officielle libérale a un message pour toutes les Québécoises et Québécois et les patients, les 147 000 patients qui sont sur une liste d'attente pour avoir une chirurgie, les quelques 500 patients qui attendent une intervention chirurgicale en oncologie et qui sont hors délai plus de 57 jours. Leur dire que l'espoir va revenir, L'opposition officielle libérale va siéger dans les prochaines heures pour limiter les dégâts d'un mauvais gouvernement qui agit sans écouter personne. Et dans un an, on pourra les remplacer, Madame la Présidente. Dors, la caisse!
Il y a deux choses dans cet extrait-là. Il y a les patients qui font partie de toutes les régions du Québec. Et comme la CAQ est en majorité, bien, il y a beaucoup de patients qui se retrouvent sous l'aile d'un député de la CAQ. Donc, comme tu le disais, j'appelle aux gens de la CAQ à penser aux patients. Et il y a la fin avec dehors la CAQ, parce qu'il ne faut pas oublier, il reste un an à la CAQ. Ouais. C'est impossible que ça revire de bord. Là.
Ben, un an, c'est deux éternités en politique. L'impossible, c'est tough.
Ouais.
Mais ça augure mal. Puis je veux dire, s'il y a des députés de la CAQ qui regardent les sondages maintenant et qui se demandent pourquoi est-ce que les sondages montrent qu'ils vont probablement tous être battus aux prochaines élections, ben, je veux dire, quand tu te lèves le matin, tu te fais imposer un projet de loi de 150 pages que tu n'as pas le temps de lire, puis ton boss dit « vote pour, asseoir », puis tu dis « oui, chef », ben, c'est peut-être pour ça que tes électeurs ont plus confiance en toi.
Exactement. Joël qui nous écrit qu'il a vécu la même chose dans la construction. Donc, une loi spéciale qui l'a forcé à revenir au travail, qui pourrait avoir un ticket. Jeff qui demande, est-ce moi qui se trompe ou le salaire des médecins en Europe est beaucoup plus bas que celui au Québec? T'as-tu cette donnée-là, toi, Fernel?
Je n'ai pas la donnée exacte, mais oui, c'est vrai. Oui. Les médecins, les salaires sont plus bas en Europe. Faut dire que, je veux dire, eux ne sont pas collés aux États-Unis où c'est le libre marché qui fait exploser les salaires des médecins. Mais oui, les salaires ne sont pas aussi élevés. C'est une structure qui est différente. Là, tous les pays sont différents aussi, mais une des différences importantes, c'est que les médecins sont essentiellement des employés dans plusieurs pays européens. Ce n'est pas des travailleurs autonomes qui sont payés à l'acte. Il y a toutes sortes de lourdeurs administratives qu'on peut enlever aussi. Et il y a un accès à la profession qui est peut-être un peu plus facile.
Il y a quelque chose, une petite parenthèse moi, que je voudrais ajouter dans ce débat-là. Puis il est somme toute assez tard. Là, on est rendu à loi spéciale et tout ça. Ça sera voté ce soir. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'entendait pas plus, et c'est sûrement une question syndicale encore, c'est toujours des représentants, des porte-parole, mais les médecins, mis à part, à chaque fois, venir taper sa tête de tous ceux qui commentent l'actualité ou qui commentaient les dossiers, on n'a pas eu de table ronde où on comprenait de façon humaine c'est quoi leur problématique. J'ai trouvé aujourd'hui un spotted où certains commençaient à se prononcer, puis ça humanise beaucoup la chose. Puis ça, je trouvais ça enfin intéressant. Encore là, je ne veux pas mettre du poids dans une partie ou une autre, mais l'important, c'est qu'à un moment donné, on sache ce qui se passe pour vrai dans l'industrie. Ben là, dans ce moment-là, c'est en santé. Ça s'appelle Spotted Soigné au Québec. Puis il y en a plusieurs qui commencent à se prononcer sur leur réalité. Puis ça, moi, je le trouve intéressant. Parce qu'effectivement, on peut avoir un genre de petit stéréotype de dire ben, ces gens-là sont hautement payés. Ils ont, oui, étudié pour. Ils ont une job exigeante. Mais quand même, ça va suffire. Là. On se rappelle, et ça a marqué nos esprits, le bonus sur la chemise, hein, sur l'habillement là, d'un médecin. Si tu mets ce dont tu es supposé porter pour travailler, on te donne une prime ou une prime pour arriver à l'heure ou une prime pour... Ça avait marqué les esprits dans l'air Barrette, Gaétan Barrette. Mais honnêtement, on n'a jamais les deux côtés de la médaille par le syndicat qui, entre les deux, essaie un peu d'être le porte-parole d'eux. Puis on oublie, comme dans la grève des enseignants, qu'est-ce qui se passe réellement dans les classes ou dans les salles d'opération ou encore dans les salles de médecine, par exemple. Puis on se dirige directement dans un mur où les gens n'auront plus envie de travailler au Québec. Puis ça, je pense que c'est la grosse perte.
Ouais, ben tu peux pas forcer les gens à travailler. Fondamentalement, il faut avoir des incitatifs. Je pense que les médecins présentement souffrent peut-être d'un déficit de capital de sympathie au Québec. Puis ça, c'est peut-être leur responsabilité à eux. Je veux dire, c'est un groupe de personnes qui a historiquement été très proche du pouvoir, alors qu'ils n'avaient pas besoin de l'appui du public.
Et ils se sont toujours montrés très fermés aussi à la négociation. Là, on se le cachera pas. Là.
Mais malgré ce déficit en sympathie-là, je veux dire, je parlais à des amis médecins, entre autres, hier, ce matin, qui me demandait qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça. Et tu sais, oui, ils sont très bien payés. On a parlé comparativement à l'Europe, mais ils sont des travailleurs autonomes. Alors, leur salaire, tu sais, les chiffres qu'on voit prend pas en compte tous les frais qu'ils sont obligés de payer eux-mêmes.
Oui, exactement. Des frais, bien, ceux qui sont en clinique ont des frais, évidemment, de locaux. Ils sont obligés de payer leur staff, c'est ça. Bon, on veut pas... Ils n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont pas d'assurance collective.
C'est
donc,
ça.
C'est des choses qu'il faut qu'ils se munissent à même leur salaire.
C'est pas juste de rencontrer le patient. Là. Des fois, c'est décrit là, le temps clinique avec les patients, les rencontres avec les familles, les laboratoires, les appels, les rapports de radiologie, l'enseignement aux étudiants, aux externes, aux résidents pour certains, les formulaires à compléter, les milliers de courriels, les comités obligatoires, la formation continue obligatoire, les réunions de département, les réunions scientifiques, Alouette.
Oui, alors, tu sais, soyons clairs, les médecins sont bien payés. Là. C'est correct.
On ne dit pas du tout le contraire.
Quand on voit les les chiffres dans les médias du 500, 600 000 pour un médecin spécialiste, ça, c'est pas ce qui rentre dans sa poche à la fin de l'année. Là. Ça, c'est ses revenus bruts duquel il doit payer beaucoup, des centaines de milliers à toutes sortes de frais administratifs ici et là. Et je pense qu'il y a probablement un travail pédagogique à faire du côté des médecins, justement, à aller parler au peuple directement, expliquer leur point de vue, leur réalité à eux, pour essayer de regagner un peu du capital de sympathie qu'ils ont peut-être négligé, qui mène à des situations où on trouve...
En effet, parce qu'on a un excellent texto de Johnny qui est rentré là-dessus, puis c'est exactement ça. Il dit, ben voyons, ils se plaignent de travailler de nuit, ils se plaignent de travailler de fin de semaine. Il y en a plein dans la société qui travaillent comme ça, puis ils n'en font pas un cheval de bataille comme ça. Alors, en effet, là, au niveau du capital de sympathie... Hey, Farnell, on a une loi spéciale ici au Québec, très autoritaire envers nos médecins. Puis on a un président aux États-Unis, lui, qui envoie la garde nationale partout. Ouais. Fait qu'on va passer d'un régime autoritaire à un autre. Non, c'est une blague.
Ben, tu blagues, mais disons que c'est des directions assez autoritaires, ce qu'on est en train de vivre présentement.
Exactement.
Oui.
Bon, Doug Ford vient défriter carrément Donald Trump. On écoute la publicité.
When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. But over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. Then the worst happens.
Market shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. Throughout the world, there's a growing realization that the weight of prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. America's jobs and growth are at stake. Alors, Doug Ford a utilisé l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, pour faire une publicité du gouvernement ontarien contre les tarifs américains. Et il a décidé de jouer ça sur les réseaux de télé américains, notamment lors du 7e match de la finale de la Ligue américaine entre les Jays de Toronto et les Mariners de Seattle. Et là, quand Donald Trump a vu ça, il a dit « Assez, c'est assez. Le Canada, on met fin aux négociations. Vous n'êtes plus nos amis. » T'en penses quoi?
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Donald Trump se revendique de la même trempe que Ronald Reagan.
Ouais.
Il aspire à ce genre de stature-là. Alors, rappeler les mots de Ronald Reagan à Donald Trump d'une façon que ça ne pourrait pas être plus clair que Ronald Reagan se serait opposé aux politiques tarifaires de Trump, je comprends que ça lui fait mal. Et il y a pas de réponse possible. Tu peux pas dire « Ah non, c'est pas ça qu'il voulait dire. » Je suis allé écouter le discours original de 1987 de Ronald Reagan. C'était dans le contexte où Ronald Reagan annonçait des tarifs contre le Japon en lien avec l'échange de semi-conducteurs. Mais il disait « Je ne veux pas mettre des tarifs. Je les mets de façon très précise et ciblée contre le Japon parce que le Japon n'est pas en train de respecter ses ententes avec nous. On veut les enlever dès que possible. Les tarifs, ce n'est pas bon pour l'économie. »
Mais Donald Trump, Farnell, c'est ciblé.
Ouais, ben c'est sûr, si tu cibles tout le monde, c'est ciblé.
Ouais, bien non, mais c'est ciblé. Un matin, il n'en met pas, puis l'autre matin, il se dit, voilà, 15%.
Ben,
c'est ciblé,
ouais,
ça.
J'ai pas l'impression que c'est tant ciblé que ça, là. Et ouais, alors, Donald Trump qui écoute ça, il est fâché, puis là, disons-le, c'est pas la première fois que le gouvernement Ford fait ce genre de choses-là. Il avait fait des publicités aussi dans le passé, avant que Mark Carney commence à essayer de rallier les troupes derrière une espèce de front de négociation. Faut croire que soit le front a brisé et Doug Ford a décidé d'agir seul, ou il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais Donald Trump l'a clairement mal pris et il a répondu comme un enfant qui fait une crise de nerfs. Là.
La suite, est-ce qu'on est capable de l'anticiper ou justement parce que c'est Trump, ça sera un peu difficile?
C'est jamais possible de savoir est-ce que c'est juste un prétexte pour lui de mettre un peu plus de pression dans les négociations. On sait que Donald Trump est quelqu'un qui aime négocier sur la place publique et qui aime négocier en maniant la place publique comme un outil de négociation. Alors, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est sérieux? On n'a aucune façon de le savoir et j'irai pas spéculer là-dedans. Il faut arrêter de capoter chaque fois que Donald Trump dit ou fait quelque chose de capoté parce que la moitié du temps, c'est une stratégie interne. Puis l'autre moitié, je pense que c'est des poules qui courent sans tête.
On lui donne un peu ce qu'il veut. En plus, quand on donne l'attention à Donald Trump, j'ai l'impression que là, on peut faire peut-être une corrélation avec l'attention qu'on donne à un jeune quand il fait une crise.
Oui, et la dernière fois que Donald Trump a fait ce genre de petite crise-là en disant « j'aime pas ça, alors je mets fin aux négociations avec le Canada », c'était en lien avec le régime de taxes sur, entre autres, Netflix, le numérique en général, et le gouvernement Carney a retiré ces taxes-là. Alors, peut-être que M. Trump espère avoir une espèce de réaction similaire, mais je vois mal comment on peut retirer l'existence des paroles de Ronald Reagan de l'histoire.
Sans surprise, Mark Carney est sorti. Il a dit « on va être prêt à se rasseoir avec les Américains quand ils seront prêts, tenter de tempérer la situation ». Mais entre Mark Carney et Doug Ford, aujourd'hui, il va se passer quoi, tu penses?
Moi, je doute que Mark Carney n'a pas été mis au vent de cette chose-là à l'avance. Je sais, j'imagine qu'il était peut-être pas favorable, mais j'ai l'impression que cette discussion-là va pas avoir lieu aujourd'hui. Elle a probablement eu lieu hier ou avant-hier.
Elle avait déjà eu lieu.
Probablement. Puis là, ils vont juste dire, bon, ben OK, maintenant, on va gérer la suite des choses.
Mais dans ce cas-ci, je vais aller dans le complotisme. Est-ce que Mark Carney se sert de Doug Ford? Peut-être Doug Ford est plus mordant et plus offensif. Carney veut toujours rester dans les bonnes relations. Donc, est-ce qu'il sert de son poulain Doug Ford pour justement être plus agressif envers les Américains?
Ben, je suis pas dans le group chat des premiers ministres provinciaux et fédéraux, alors je sais pas. Je pense pas que ce serait le genre de stratégie qui serait utile. Si on voulait passer par des moyens un peu plus détournés, on passerait pas par un premier ministre d'une province. Ouais. On pourrait passer par une espèce de groupe d'intérêt quelconque aux États-Unis qui pourrait facilement passer le même message.
Je termine cette superbe chronique de Farnell Morisset avec Fred qui nous écrit « Ironiquement, Donald Trump prendrait certainement un Doug Ford dans ses rangs. »
Sûrement, oui. Il serait très content de l'avoir.
Pas mal convaincu qu'il ferait des bons amis à la Maison-Blanche. Farnell Morisset, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Tu es avec nous à chaque vendredi aux alentours de midi. Normalement, débat avec Lambert de Rainville, mais pour cette semaine, Lambert était absent. Fait qu'on se fait une belle chronique.
Je le salue puis je l'aime pareil, ouais. Lambert.
L'actualité nous a aidé à faire une bonne chronique, hein, Pascal Sévé. Qu'est-ce que t'en penses?
En même temps, j'ai l'impression que Farnell pourrait parler de n'importe quoi.
Oui, Farnell est toujours très... Suivez-le sur les médias sociaux. C'est le meilleur.
T'es-tu un vrai ingénieur, toi, par exemple?
Oui, moi je confirme, okay. Je suis membre de l'Ordre des ingénieurs.
OK, mais attends, justement, on va finir là-dessus, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça pendant la campagne électorale.
Elle est habituée à moi, là. Ouais. Moi, là, je suis pas un philosophe, je suis pas un poète, là, je suis pas un grand littérature, là. Moi, je suis ingénieur, je suis gestionnaire, t'es un gars de chiffres. Bien, je veux vous rappeler, je suis ingénieur. J'ai une maîtrise en génie, en passant. J'ai une maîtrise en gestion. J'ai géré des projets dans ma vie. Donc, l'aspect ingénierie, j'ai quand même la facilité à voir, à comprendre.
Farnell, c'est quoi la différence entre toi et Sam Ahmad? Il est ingénieur, viens de nous le dire deux fois.
Ben, contrairement à Sam Ahmad, moi, je suis inscrit au rôle, je suis inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec. D'accord. Je paye mes cotisations, je remplis mes obligations à chaque année. Monsieur Ahmad ne fait plus ça depuis 2014, si j'ai bien compris. Alors, ce qu'il a dit, c'est contraire aux obligations légales et aux limites légales de ce qui peut être dit et affirmé par des gens qui ne sont pas des ingénieurs.
Personnellement, qualifiés. Ça te dérange-tu quand il est ingénieur et il ne paye pas sa cotisation?
Qu'il paye pas sa cotisation, ça me dérange pas tant. Ce qui me dérange, c'est qu'il laisse croire aux gens qu'il a des compétences légales en ingénierie qu'il n'a pas. Et puis ça, je veux dire, ça, c'est pas quelque chose que l'Ordre des ingénieurs fait juste pour se protéger puis contrôler le marché. Il y a des raisons pour ça. C'est parce que, je veux dire, le travail d'un ingénieur met le public en danger si c'est mal fait. Alors, il faut s'assurer que tout le monde qui exerce cette profession-là et qui réclame la crédibilité associée ait réellement les compétences pour le faire. Puis ça veut pas juste dire « je comprends qu'il y a une maîtrise, bravo pour lui », mais il y a des obligations additionnelles, il y a des obligations déontologiques, il y a des obligations de responsabilité professionnelle, il y a des obligations de formation continue, toutes ces choses-là. Je sais pas si M. Ahmad a suivi les formations continues de façon purement bénévole, ça se peut bien, mais si on n'a pas l'assurance à l'intérieur d'un autre professionnel qui l'a fait ça, ça pourrait potentiellement induire le public en erreur et même potentiellement mettre le public en danger.
Pour le public, des fois, ça semble un peu sévère, hein, ces ordres-là, de ce qu'on peut dire ou pas, quand il y a eu réellement études, puis il y a vraiment diplôme là-dedans, le fait de ne pas cotiser à un ordre qui régit la profession.
Ouais.
Peut-être que pour nous, ça peut sembler parfois un petit peu intense, là, les chicanes autour de ça.
Ouais, puis tu sais, je rappelle toujours, tu sais, moi, quand je dis que je suis avocat, je précise toujours que je suis avocat à New York, parce que je ne suis pas membre du barreau du Québec, qui est une situation très similaire. Je n'ai pas les qualifications légales au Québec pour donner des avis juridiques, et donc la loi ne me permet pas de sous-entendre que j'ai cette capacité-là. C'est pour ça que que je le dis. Je peux faire ça pour me péter les bretelles. C'est parce que je le sais puis je le comprends et je pense que c'est très important pour la société qu'on ait des ordres professionnels qui protègent le public de cette façon-là. Mais M. Hamad a été membre du conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs pendant presque 10 ans.
Oui, d'ailleurs, Carl nous écrit ça justement.
Il ne peut pas plaider l'ignorance. Il était parmi ceux qui étaient chargés d'appliquer cette
donc,
règle-là.
Donc, il était parmi ceux qui se plaignaient des autres qui disaient « je suis ingénieur » qu'il ne l'était pas.
Entre
c'est ça
que tu es
en train de me dire.
Ben oui, une partie de la responsabilité de l'Ordre des ingénieurs, c'est de protéger le public contre ouais. de l'exercice et de l'usurpation, c'est-à-dire de gens qui se donnent le titre d'ingénieur quand ils n'ont pas les qualifications légales. Mm-hmm. C'était son travail en tant qu'un membre du comité du conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs de faire ça. Alors, il le sait. Lui, plus que presque n'importe quel autre ingénieur professionnel au Québec, devrait comprendre l'importance de respecter le titre professionnel ouais. et pas induire le public en erreur là-dessus. Je trouve ça, sincèrement, en tant que membre de l'Ordre des ingénieurs qui continue à remplir ses obligations, je trouve ça un peu choquant.
Farnell Morissette, tu as toujours le mot exact pour nous. Merci encore de ta présence. On prend encore parler avec Farnell pendant 2 heures, mais on a d'autres invités, Pascal. Fait qu'il faut arrêter. On n'a pas le choix. En fait, t'es d'accord?
Oui, bonne fin de semaine d'automne, Farnell.
Merci.
Repose-toi.
Ben,
et en passant, t'es vraiment avocat à New York. Fait que le jour où quelqu'un dit tu te pètes les bretelles là-dessus,
ouais,
je dis, moi, ça me dérange ouais. dans la vie. C'est ma petite parenthèse.
Ben, c'est une belle parenthèse.
Fais. Peux-tu être fier? Ben, oui. Peux-tu le dire?
Ouais, ben, tu sais, mais je le dis aussi par énorme respect que j'ai pour le barreau du Québec qui fait un très bon travail et qui doit protéger le public et je ne veux pas me prétendre être capable de mener des actes que j'ai pas les qualifications légales.
Comment il est humble? Il est ingénieur, il est avocat à New York, puis il est humble.
Et puis en passant, je trouve ça drôle parce que ça m'a mal qui dit qu'il est pas philosophe. Moi, j'ai une maîtrise en philosophie aussi. Je dis ça de même.
Il y a tout, Farnell. Pourquoi je suis pas Farnell, Maurice?
Moi, je commence à douter de la personne. Là.
Hey, alors, suivez-le sur TikTok.
On a-tu un Apollo? On
ouais,
a-tu
Suivez-le sur TikTok, Farnell Morissette, meilleur vulgarisateur de l'actualité. Courte pause
attends,
à l'émission.
Attends. Je sais que tu finissais, mais c'est parce que ma référence à Apollo, il y a eu d'autres choses dans l'actualité qui me dérangent. Je voulais parler, ça invente-tu quelque chose, puis on va savoir que dans un couple d'années, c'était pas vrai pour faire. Mais je veux pas prendre Apollo. Pas j'avais pas le choix de revenir, j'ai les oreilles rouges.
Je vous amène mon diplôme la semaine prochaine si vous voulez, vous pouvez voir.
Farnell Morissette est vraiment le meilleur. Courte pause à l'émission d'Enchance. Par la suite, c'est le conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, conseiller pour un municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux jusqu'au 2 novembre prochain. Jean-François Gosselin qui vient s'asseoir avec nous. Lettre ouverte dans les médias hier pour demander une majorité à Bruno Marchand. On va tenter de comprendre le tout avec lui dans quelques instants à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.